La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, Dieu notre Père, celui que nous prions tous ensemble dans la fraternité humaine. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Bienvenue à notre invité, particulièrement ce matin, le rabbin Jonas Jacquelin, qui nous a fait l'honneur de répondre positivement à notre invitation en ce jour particulier. Un jour particulier parce que le 25 avril, c'est la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, qui se déroule chaque année le dernier dimanche d'avril. Cette date a été retenue en raison de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps de la mort. Mais ce jour n'est pas un jour pour le culte mémoriel, c'est un jour pour l'avenir, un jour de construction, d'amitié. Et cher Jonas, que vous soyez ici aujourd'hui est pour nous très important. Votre présence redit nos liens avec le judaïsme, et particulièrement dans ce temple qui fut reconnu maison de vie, parce que dans ce lieu, dans cette maison, ont été accueillis des hommes et des femmes et des enfants menacés de mort parce qu'ils étaient juifs. C'est aussi une joie profonde parce que votre venue ouvre l'avenir sur ce que nous pourrons faire ensemble pour annoncer la paix et le respect de la foi de chacun dans ce monde. Nous avons déjà accueilli ici la cantor synagogale de la synagogue Copernic, Sofia Falkovitch, pour un concert centré sur les psaumes. Et c'était une joie profonde pour nous de partager ce trésor. Vous avez écrit dans notre feuille rose sur le thème de l'esprit et de la lettre. Et votre article a connu un grand écho auprès des lecteurs. Et aujourd'hui, vous allez nous partager votre commentaire de la paracha de la semaine dans le livre du Lévitique. La synagogue Copernic est, comme l'oratoire du Louvre, un lieu où se développe une théologie libérale. Et cette recherche de liberté pour l'homme en Dieu est notre trésor commun. Bienvenue donc dans notre communauté.
Merci Madame le Pasteur pour ces mots d'accueil. Merci à tous pour cette présence et depuis mon arrivée ici, ce sentiment diffus de fraternité est quelque chose que je ressens, je dirais, au-delà des mots. Et je suis certain que pour le temps qui nous réunit, il continuera d'être présent.
Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à commencer ce temps de louange avec le premier répons qui est dans les psautiers français. À l'entrée du psautier français, vous avez tous les répons. Nous louons le Seigneur. Avec le psaume 133, une partie du psaume. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem, chant de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Louons le Seigneur avec un autre psaume, le psaume 92 dans les psautiers, les strophes 1, 2, 3 et 4. Écoutons ce que dit le prophète Amos. Voilà ce qui est écrit dans ce livre prophétique. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Que ce commandement, cette injonction, nous accompagne toute notre vie et accompagne notre recherche de Dieu. Nous chantons. Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière de Søren Kierkegaard. Père aux cieux, Comme un père envoie son enfant dans le monde, ainsi tu as mis l'homme sur la terre. Il est séparé de toi comme par un monde. Il ne te voit pas de ses yeux, ni n'entend ta voix de ses oreilles terrestres. Le voilà ici-bas et la route est devant lui, si longue à l'heure inerte du découragement qui ne veut pas attendre, si malaisé à l'instant pénible de l'impatience qui lui refuse tout répit. Donne alors à l'enfant du courage dans ce vaste monde, du courage quand tant de fausses routes semblent s'offrir à lui et que la bonne route est si difficile à connaître. Du courage quand l'angoisse et le chagrin semblent trouver des alliés dans la fureur perverse des éléments, dans l'horreur des événements, dans la misère déprimante des hommes. Donne-lui alors du courage pour se souvenir et croire que de même qu'un père envoie son enfant dans le monde, tu as mis de même l'homme sur la terre. Dieu de miséricorde, comme de l'enfant prodigue, en trouvant le chemin du retour, a trouvé tout changé jusqu'à l'esprit de son frère, mais non l'esprit de son père, dont l'amour l'accueillit à sa rentrée par un festin, dont le cœur paternel lui rendit à lui, l'enfant perdu, l'assurance aisée du convive. Quand de même un homme retourne à toi, donne-lui alors l'assurance sur le chemin de la conversion, qu'il ait au moins le front de se croire attendu, attendu du miséricordieux qui s'inquiète et craint sa perdition. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de Dieu renouvelée sur chacun ici. L'Éternel Dieu vit en nous, que son esprit nous anime. Sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Il nous redit ce matin, « Va, ma grâce te suffit ». Confessons notre foi ensemble avec ces mots de la fraternité des remontrants. Voilà ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous donne. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes, ni de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils louent et servent Dieu, en chantant et en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme empli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit au-delà de sa propre mort et de notre mort. Il est pour nous un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance, car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre le temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et l'éternité. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons maintenant laisser Jonas nous partager sa parole. Voilà, je vous laisse prendre place, Jonas. Merci.
Bonjour à tous, Madame le Pasteur, chers amis, je tenais à vous remercier pour ce chaleureux accueil qui m'émeut et me réjouit à plusieurs titres. Tout d'abord parce que, nous le savons, vous comme moi, il est toujours important et bon de dialoguer. L'époque dans laquelle nous vivons fait qu'un échange comme le nôtre ce matin n'est pas que de l'ordre de l'option, comme on pourrait l'imaginer, mais à mes yeux, véritablement de l'ordre de la nécessité. Ensuite, parce que il est, paraît-il, coutume de dire et on me l'a soufflé à différentes reprises, l'oratoire du Louvre serait au protestantisme ce que la synagogue Copernic est au judaïsme et vice-versa, la synagogue Copernic au judaïsme, ce qu'est l'oratoire du Louvre au protestantisme, c'est-à-dire deux lieux de liberté et de fidélité. Liberté, parce que vous l'avez évoqué, Madame le Pasteur, notre approche de nos traditions respectives refuse toujours de se laisser enfermer dans un prêt-à-penser, parfois confortable, mais toujours ankylosant. Et aussi parce que notre appartenance à ces deux grandes religions ne nous fait jamais renoncer à un idéal d'universalité. Fidélité aussi parce que nous nous savons les héritiers d'une histoire qui fait ce que nous sommes et dans laquelle nous nous abreuvons chaque jour que Dieu nous donne. Et parce qu'étant conscients de ce que nous sommes et fidèles à ce que nous sommes justement pour cela capables d'emprunter le chemin qui mène à la connaissance de l'autre avec un grand A. Sur quel texte se pencher alors pour répondre à votre invitation? En bon rabbin ou en bon juif, je me suis dit, le plus simple et le plus logique, pertinent, sera certainement de se pencher sur ce que l'on appelle en hébreu « parashat hashavua », la paracha, la péricope de la semaine. Dans la tradition juive, le Pentateuque, que l'on appelle aussi le Chumash, cinq livres, est découpé en 54 sections qui sont lues sur une année. Chaque semaine, nous avons la coutume, la tradition de lire un segment différent. Et cette semaine, le texte lu est le texte de Parashat Emor, la section de Emor dans le livre du Lévitique qui court des chapitres 21 à 24. C'est une paracha riche, plurielle, qui contient des règles relatives à la prêtrise, qui contient des règles relatives au calendrier et aux différentes offrandes apportées à l'occasion des différentes solennités tout au long d'une année. Mais un texte qui va se conclure de manière étrange, étonnante, par un épisode narratif dans un livre, le Lévitique, qui est avant tout un livre riche en prescriptions, en détails, en lois, mais qui va se terminer sur un passage narratif, l'un des deux seuls passages narratifs du livre du Lévitique, et cet épisode est appelé l'épisode du Mekalel, l'épisode, l'histoire, le récit du blasphémateur. Et c'est sur ce dernier passage, ce passage qui vient en conclusion de la paracha Emor, que j'aurais aimé me pencher, m'arrêter avec vous. Permettez-moi donc de lire la traduction de ce texte que j'ai copié de l'édition dite du rabbinat, une traduction de la Bible sous la direction du grand rabbin Zadok Khan, qui fut édité il y a plus d'un siècle maintenant. Nous sommes dans le Lévitique, au chapitre 24, verset 10. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra, Vayikov en hébreu, en blasphémant, Vayekalel, le nom sacré, le nom de l'Éternel. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shlomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr, jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. « Qu'on emmène à Mekalel, le blasphémateur hors du camp,
que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Parle aussi aux enfants d'Israël en ces termes, Ish, Ish, qui est Kalel, quiconque outrage le nom de Dieu portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème, Vanikov, nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider, étranger comme indigène. S'il a blasphémé nominativement, Benakvu Shem, il sera puni de mort. Quelques versets passent et le texte termine en disant « On emmena à Mekalel, le blasphémateur, hors du camp et on le tua à coups de pierre. Et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. » À la lecture de ce texte, il y a de quoi frissonner. La lecture de ce texte peut légitimement, logiquement, choquer nos consciences. Puisque ce qu'il nous dit, c'est tout simplement, tout bonnement, de faire lapider, faire mettre à mort un homme ayant tenu des propos, certes inconsidérés, mais qui, en l'occurrence, n'ont attenté à la vie d'aucun vivant de chair et de sang, et qui vise à éliminer de cette terre un homme fait lui aussi à l'image de Dieu. À la lumière de l'actualité, on ne peut pas ne pas se demander si face à un texte comme celui-là, il nous reste une autre solution que la condamnation ou impudique et quelque peu coupable silence. Mais c'est justement là qu'interviennent nos traditions religieuses qui mettent au centre de tout l'exégèse, l'interprétation. C'est dans ce sens que l'étude de nos traditions, celle qui veut trouver une autre voie, la voie de l'exégèse face à ce que d'aucuns ont pu appeler les versets douloureux, si nous rejetons la littéralité de ce texte, nous les prenons en même temps à bras le corps et nous cherchons à l'idrosh, doresh, rechercher en hébreu, exiger, comme le dit l'exégèse, un autre sens. Dans le livre des Proverbes, il est écrit au sujet des textes, Etz Chaim I, la Machazi Kimba, Vetomrea, Meushar. Ces textes sont un arbre de vie pour ceux qui peuvent les saisir et s'y attacher, c'est s'assurer la félicité. Comment comprendre ce passage et comment expliquer sa présence dans ce moment précis? Les sages vont apporter toute une série d'explications. Un premier sage, Rabbi Berachia, cité par un commentaire, le Midrash Tanhuma, qui date des premiers siècles de notre ère, considère que ce Mekalel, ce blasphémateur, voit son histoire racontée dans ce passage précis du texte biblique parce que son blasphème, son outrage, vient de la remise en question des lois énoncées dans le paragraphe précédent. Et sa colère vient du fait qu'il refuse ou qu'il souhaite tourner en ridicule les prescriptions qui ont été données quant aux offrandes. Le Sifra, un autre commentaire, un petit peu plus ancien, considère que cet homme, en réalité, sortait du tribunal de Moïse, qu'il avait été débouté de la requête qui était la sienne, et face à cela, plutôt que ne s'en prendre qu'à Moïse, il cherchait à s'en prendre également au législateur divin, et son propos outrageant visait à remettre en cause le jugement est celui au nom duquel la loi avait été rendue. Dans les deux cas, ces paroles outrageantes sont des paroles qui remettent en question la loi. Des paroles qui remettent en question la loi, une loi qui ici est remise en question non pas par des actes, mais par des propos. une loi qui n'est pas transgressée par un comportement outrancier ou déplacé, mais par la parole. Et dans ce sens, on peut voir un parallèle ou trouver une signification à ce mot de « émor » qui donne son nom à la paracha. « Émor » qui donne son nom à notre section signifie « parle ». Et Dieu dit à Moïse de parler à la famille d'Israël. D'après Even Shoshan, l'auteur d'une concordance biblique, on trouve la racine de ce mot de « émor » plus de 5000 fois dans le texte de la Torah. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'un terme, une racine qui apparaît à plus de 5000 reprises dans le texte, se voit gardée comme titre, comme appellation de cette paracha. Et peut-être que la réponse sera à trouver dans la conclusion de cette paracha, parce que la parole, en réalité, va au-delà du simple discours. La parole est toujours une vision du monde, la parole est toujours le véhicule de quelque chose qui la dépasse. Le texte nous interroge sur cette parole et sur ce que l'on pourrait traduire ici par blasphème, ou que l'on a traduit en tout cas par blasphème, ce qui peut sembler quelque peu inexact à certains moments. Parce que en hébreu, on a l'idée de mekalel. Le mekalel, c'est celui qui va traiter soit avec légèreté, soit qui va maudire. Et on a l'idée de nokev, celui qui va proférer. Mais qu'est-ce que c'est que proférer ici? Alors, qu'est-ce que le blasphème? Le mot français vient du latin et désigne cet outrage à la divinité. En hébreu, comme je vous disais, il est question de mekalel ou de nokev, celui qui maudit ou outrage le nom de Dieu. Comment comprendre cet épisode? En réalité, la Torah reste silencieuse sur ce qui va constituer l'essence même de ce blasphème. Le blasphémateur avait-il directement maudit le nom de Dieu ou avait-il utilisé le nom de Dieu dans la querelle qu'il avait avec d'autres au moment de cet épisode? Le texte ne le dit pas. Rashi, le grand commentateur du XIe siècle, considère qu'ici le blasphème réside dans le fait d'avoir simplement prononcé le nom ineffable. Le tétragramme, qui, dans la tradition juive, ne peut être vocalisé et qui, à l'époque biblique, n'avait été entendu qu'au moment du don de la Torah au pied du mont Sinaï et qui, depuis ce moment, tant que le temple était bâti dans Jérusalem, n'était répété, n'était prononcé en réalité que le jour de Kippour, le jour le plus saint. Autrement, interdiction absolue de dire, de prononcer le nom de Dieu. Pour Rashi, donc, le blasphème consistait simplement dans le fait d'avoir prononcé, dit le nom de Dieu. Aujourd'hui, plus personne ne sait vocaliser ce nom, ce qui rend techniquement caduque la possibilité d'un blasphème. Et c'est Sforno, un grand commentateur italien du XVIe siècle, qui nous dit « Peut-être que les idées liées au blasphème, à la transgression, à la profanation du nom de Dieu, avaient un sens dans les temps les plus reculés, mais aujourd'hui, il nous parle au XVIe siècle, nous avons quelques siècles de plus, il est impossible techniquement de parler de blasphème, parce que le blasphème, ce serait simplement prononcer le nom de Dieu, quelque chose qui n'est plus en notre pouvoir et qui rend impossible une quelconque condamnation. Il y a comme un paradoxe dans ce texte qui traite d'une question importante pour la société biblique, qui termine par une lapidation, mais qui ne dit rien du contenu de l'offense en question. Un autre auteur médiéval, Aaron Alevi, l'auteur du Sefer Achinour en Espagne au XIIIe siècle, propose une autre interprétation de ce que l'on appelle le blasphème. Il considère que blasphémer revient en réalité à profaner l'image divine qui est présente en chaque individu. Ce qu'a fait ce blasphémateur, ce n'est pas d'injurier ou d'outrager la divinité, mais c'est de faire sortir de lui-même la présence divine, le reflet divin qu'il avait comme chaque individu. L'auteur nous dit « Celui qui profane le nom de Dieu se départit de tout le bien et de toute la noblesse qui peut résider en lui. » Il fait sortir cette image divine. Ce que l'on appelle alors ici le blasphème, loin des explications, interprétations qui se lisent jusque dans la presse aujourd'hui, serait en réalité de retirer à l'homme, de retirer à la femme l'image de Dieu, la noblesse qui réside en lui. Et cette explication va renverser, inverser radicalement la signification du terme, du concept, et le transporter de ce qui serait considéré comme un outrage au Créateur à un outrage à l'idée d'humanité, à un outrage à l'idée de dignité humaine. Dans cette perspective, le respect de la vie humaine, de sa dignité, a une dimension sacrée qui passe avant toute autre sorte, toute autre forme de considération. Permettez-moi de revenir sur cette idée de parole qui est au cœur de la transgression. Pour les maîtres de la tradition juive, pour les sages, dans le Talmud, les Midrashim, ou la littérature de ce que l'on appelle le Moussar, l'éthique, cette parole n'est pas qu'un son, n'est pas qu'un bruit, mais est avant tout un vecteur de création. Dans la prière quotidienne, chaque matin, nous disons « Barur Sheamar V'haya Olam » « Béni soit celui dont la parole a créé l'univers ». Nous nous souvenons ici des premiers versets du livre de la Genèse, dans lesquels c'est par la parole divine que le monde a été créé. « Vayomer Elohim yehor vayehor » L'Éternel a dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. C'est par le Verbe divin que provient, qu'advient la parole. « Vayomer Elohim yehi rakia betor amaim »« Vayehi mavdil bein amaim lemaim » Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Là encore, et pendant tous les jours de la création, c'est par la parole que le monde va être créé. Et les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, traités du Talmud, nous rappellent que c'est par 10 paroles que le monde a été créé, établissant ainsi un parallèle entre les paroles de la création et le décalogue, les 10 commandements qui sont le socle de chaque société qui se veut décente. Quand on continue la lecture du livre de la Genèse, on se rend compte que c'est en imposant un nom aux différentes créatures qu'Adam va marquer son ascendant sur elles. En effet, vous vous souvenez que toutes ces bêtes créées par Dieu vont passer devant Adam, vont passer devant le premier homme, et se voir nommé par lui. L'homme devient ainsi un co-créateur du monde, parce qu'à défaut d'avoir créé, formé toutes les créatures, il a été capable de leur donner un nom, une appellation, une désignation. C'est par cette parole humaine également que le monde, ou tout ce qu'il y a de signifiant dans le monde, a été créé. En continuant notre lecture du livre de la Genèse, on se rend compte que c'est du fait de l'absence de parole, du fait de l'incapacité de dialoguer, qu'intervient le premier fratricide, le moment où Caïn va tuer son frère Abel. Et plus loin, dans le livre des Proverbes, il est écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue », ce que les sages dans le Talmud commentent, explicitent par l'idée qu'une parole prononcée à Rome peut tuer à Damas ou à Jérusalem. Chaque jour, dans les relations humaines, nous pouvons observer le fait qu'une parole réconfortante va pouvoir rassurer celui qui manque de confiance en lui. Alors qu'au contraire, des mots désobligeants, des mots blessants pourront causer la chute du plus téméraire des hommes. Ces deux possibilités poussées à l'extrême montrent bien le pouvoir de vie et de mort de chacun des mots que nous prononçons. Dans ce sens, un midrash, un commentaire, raconte l'histoire d'un sage envoyant son serviteur sur la place du marché. Il lui demande « Ramène-moi la plus belle chose que tu pourras trouver sur la place du marché. » Le serviteur sort de la maison, va voir les différents étalages des commerçants et revient avec une langue de veau. Un petit peu plus tard, ce même sage demande à ce même serviteur « Ramène-moi la chose la plus laide que tu pourras trouver sur la place du marché. » Le serviteur s'exécute, sort, va voir les différents étalages et revient chez son maître avec une langue de veau. Et son maître l'interroge. « Je t'ai demandé d'apporter ce que tu trouves de plus beau. Tu m'as rapporté une langue de veau. Je t'ai demandé de me rapporter ce que tu trouves de plus laid. Tu m'as rapporté exactement la même chose. » Et renversant la situation et devenant le maître, l'enseignant de son patron, le serviteur lui dit « Je t'ai apporté une langue. D'apporter une langue, la langue est ce qui est capable de construire, de rassurer, de réconforter, de bâtir des mondes, et la langue c'est aussi ce qui est capable de blesser, de tuer, de détruire. » Dans le texte biblique, la parole, au départ apanage divin, devient la faculté humaine par excellence. Et en ce sens, le linguiste Claude Agege définit l'être humain comme « homo locens », comme l'homme de la parole, comme l'homme de la locution. On l'a vu dans cette paracha, est mort, parle, la paracha de la parole, c'est par des mots que le personnage dont il était question a été capable de blasphémer. Il ne s'agit pas ici de défendre le texte dans sa littéralité, mais de comprendre les enseignements qui sont portés en lui, et de voir ce qu'une simple parole peut avoir de destructeur et de grave. Dans les psaumes, et dans un passage des psaumes qui est récité 3 fois par jour, dans la prière de la Amida, il est dit « Adonai sefata et tiftar, ufi yagid teilatecha » « Éternel, ouvre mes lèvres et que ma bouche disent ta louange, disent ta prière. » Notre faculté à parler, communiquer, louer, nous a été donnée par Dieu. Mais en créant en l'être humain, Dieu nous a doté de ces deux facultés, celle de bâtir, celle de détruire, celle d'aller vers la bénédiction, celle d'aller vers la malédiction, et doté du libre arbitre qu'il a placé en l'homme. C'est à nous de savoir, c'est à nous de nous dire, est-ce que les paroles de mes lèvres, est-ce que les mots qui sortent de ma bouche seront, selon ma liberté, des mots de construction, des mots de bénédiction ou des mots de malédiction? Si ce sont des mots de malédiction, je suis capable de détruire, de brûler l'image divine qui est en moi. Si ce sont des mots de bénédiction, des mots de construction, je suis capable de magnifier et de faire fleurir cette image de Dieu qui a été placée en mon sein. Etzraim i la marazikimba, cette Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent. Il s'agit de l'apprendre dans sa totalité, avec ses versets heureux, ses versets plus regrettables, et de se demander comment mes paroles, comment nos paroles pourront transformer un passage. Un passage qui place l'homme dans ce qu'il peut y avoir de pire dans une civilisation, la mort, la destruction, en un passage de bénédiction. Vetomrea Meushar, ceux qui soutiennent cette étude, ceux qui soutiennent cet enseignement, pourront trouver la félicité. Puissent ces enseignements nous accompagner et nous inviter à chaque fois à nous poser la question, avant d'ouvrir la bouche, Est-ce que mes paroles, est-ce que mes mots, parfois futiles, parfois irréfléchis, seront des mots qui vont construire, rassurer, ou au contraire, des mots qui vont détruire, faire perdre confiance? C'est dans le pouvoir de l'homme, et chacun a cette possibilité de suivre la malédiction comme la bénédiction, et c'est toujours pour un monde fleuri que nous nous inscrivons dans le chemin qui est celui de la bénédiction. Que ces paroles soient toujours des paroles de vie, des paroles sincères et agréables à jamais. Merci pour votre attention.
Merci infiniment à notre invité, le rabbin Jonas Jacquelin, pour cette méditation sur un texte qui nous est difficile à la lecture et qui l'a éclairé avec cette importance de la parole. Merci beaucoup à vous. Merci à David qui nous accompagne aujourd'hui avec un répertoire entièrement composé d'œuvres de Mendelssohn. Et vous venez d'entendre le mouvement andante de la sixième sonate de Mendelssohn. Et les autres morceaux qui suivront seront aussi de cet auteur qui lie, par son histoire même, le judaïsme au protestantisme. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 107 dans les louanges et prières. Pardon ? Non, non, c'est le 107, le cantique. Pardon. Non, excusez-moi. Alors oui, en effet, c'est le psaume 107. Je vois l'œil réprobateur de notre sacristain et je rends les armes. C'est bien le psaume 107. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, les annonces pour cette semaine sont peut-être en premier lieu le partage biblique qui aura lieu mardi à 12h30 ici au Temple. Et notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer est en congé, mais elle rentrera donc cette semaine. Et pour ma part, je me reposerai à partir du 29 avril, voilà, jusqu'au, je crois, 7 mai, voilà. Donc, vous retrouverez donc Agnès ici même. Alors, avec la pause spirituelle, voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande, le moment où nous pouvons donner de ce que nous avons et de ce que nous pouvons partager pour la parole. Oui, Gustave? Alors, Gustave, oui. Alors, viens le faire toi-même. Voilà. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà. Alors, Gustave Dodard, qui fait partie du conseil presbytéral, va nous donner une annonce.
Mercredi soir, les jeunes protestants ou non-protestants qui seraient intéressés sont invités à nous rejoindre en ligne. Le thème qui a été choisi la fois dernière est... la paire des larmes. Il y en a qui s'en souvient. L'égarement, exact. Égarement, moment d'égarement, brebis perdue. Voilà, on va s'interroger sur quand on est jeune et qu'on cherche sa voie. Est-ce que et comment y voir plus clair. Et voilà, il y aura donc en ligne, en se connectant via bit.ly, Jeune Oratoire 28 avril. Toutes les informations sont en ligne. Et voilà, les jeunes qui seraient là et qui ne seraient pas sur le groupe WhatsApp peuvent aussi me contacter à la sortie du culte pour prendre contact. Merci à tous.
Merci Gustave. Voilà, je vous invite donc au temps d'offrande. Merci. Thank you. Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis notre rencontre d'aujourd'hui. Permets que nous soyons tous toujours dans cette amitié fraternelle. Quelles que soient nos convictions, nous pouvons être frères et sœurs devant toi. Quels que soient nos héritages, notre langue pour dire les choses, notre langue pour te prier, nous pouvons sans cesse être appelés amis. Seigneur, nous te remettons tous les lieux de conflit pour la parole religieuse. Que tous ceux qui se battent au nom d'une vérité qui existerait contre celle des autres puissent entendre ta parole de miséricorde, de fraternité et de justice. Que ta parole résonne en eux et les éclaire. Que ta parole soit parole de vie au milieu des conflits qui cherchent à annuler l'autre parce qu'il est gênant pour ses propres convictions. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à faire cesser ces violences par notre œuvre de paix. Fais de nous des hommes et des femmes de dialogue, des hommes et des femmes de parole, qui tiennent parole devant toi et qui soient fidèles à ce que tu nous transmets sans cesse. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui souffrent là où ils sont, pour des raisons d'intolérance. Bénis-les, Seigneur, et aide-nous à les aider. Notre pays est secoué par des violences qui surgissent au moment où nous ne nous y attendons jamais. Permets, Seigneur, que ces violences ne soient pas comprises comme le tout de nos rapports humains dans notre pays, qu'elles n'envahissent pas tous nos dialogues, qu'elles ne nous fassent pas sombrer dans la crainte, mais qu'elles nous encouragent à sans cesse nous rencontrer, nous parler et écouter ce que les autres ont à dire. Apprends-nous, Seigneur, à nous taire pour apprendre des autres. Apprends-nous l'humilité pour apprendre de toi. Et ensemble, nous pouvons te dire la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, notre ami rabbin Jonas Jacquelin, c'est maintenant le moment de quitter ce lieu avec ce que nous avons reçu, ce que nous avons reçu d'enseignement de la part de Jonas, ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur qui nous a rencontrés dans nos prières et dans nos chants. Nous allons maintenant porter cela au monde qui en a bien besoin. Alors allez avec cette fraternité vécue, allez dire que cela existe et que vous pouvez avec cela changer les choses. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen.